Bonsoir. Province du Dorkivo, près de 300 démobilisés menacent de retourner dans les groupes armés si rien n'est fait pour les assister. Ils dénoncent l'insécurité persistante dans la région, mais aussi le fait que le gouvernement n'honore pas ses promesses vis-à-vis d'eux. Comment analyser cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 25 janvier 2017. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Norbert Kassindi, responsable provincial de l'unité d'exécution du programme national DDR. Monsieur Kassindi, bonsoir.
Bonsoir.
Allô, vous m'entendez?
Bonsoir.
Voilà, Didier Bitaki, expert en désarmement et en droit international humanitaire. Monsieur Bitaki, bonsoir.
Bonsoir.
Et Mohamed Boulé, député national. Il est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est ancien vice-ministre de la Défense et général à la retraite. Monsieur Boulé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Amos Bissimoa, de Bukavu. Suivez-vous. Peut-on parler de la mauvaise planification ou de l'échec du processus des DDRRR en RDC? Depuis son lancement, on assiste souvent à des mécontentements, voire des soulèvements des anciens combattants dans des camps dus aux conditions inhumaines et promesses irréalisables dont ils sont victimes. Merci de nous suivre à Rutshuru, au Nord Kivu, sur la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Honor Kivu, je l'ai dit, dans le groupement Mbinza, en territoire de Rutshuru, près de 300 démobilisés menacent de retourner dans les groupes armés si rien n'est fait pour les assister. Ils dénoncent l'insécurité dans la région, mais aussi le fait que le gouvernement n'honore pas ses promesses vis-à-vis de Christian Mapendano. Nous donne les détails.
Ils sont à plus de 270, le nombre de démobilisés, nouveaux et anciens, qui sont abandonnés à leur triste sort dans le groupement de Binza, en territoire de Rutshuru. Ils sont éparpillés dans plusieurs localités comme Akiseguro, Ngwenda, Buramba et Nyamilima. La plupart d'entre eux disent s'être enrôlés dans le groupe Mai Mai à cause justement de l'insécurité dans leur milieu, mais après avoir quitté la forêt, ils disent qu'ils sont pour la plupart des cas mis au banc de la communauté. On leur refuse de leur donner du travail parce qu'ils sont toujours considérés comme étant de maï-maï. De notre côté, ils ne peuvent aller cultiver leurs champs de crainte d'être capturés et tués par ceux qui sont restés dans la forêt. D'autres disent qu'ils ont voulu s'enrôler dans l'armée régulière à partir de Kamina et Kitona, mais ils ont été forcés de retourner à Rutshuru avec de fermes promesses d'être assistés sur place. Mais jusque-là, aucune action en leur faveur. Beaucoup parmi eux se disent même être prêts à retourner dans la forêt pour survivre si rien n'est fait par le gouvernement pour leur réinsertion. Depuis Nyamilima, Christian Mapendano, Radio Kapi.
Merci Christian Mapendano. Et dans la nouvelle province de la Tchopo, c'est le même cri de détresse. Les démobilisés se disent abandonnés par l'État. On écoute Michel Ondekane, leur président et porte-parole, au téléphone de Berry Lutaka.
Vraiment, pour le moment, nous vivons en dépendance. Parce que depuis que l'UMPDDR nous avait appuyé nos kits de réinsertion, et après avoir nous appuyé nos kits de réinsertion, on vivait quand même, on se prendrait en charge. Et à un moment donné, le gouverneur de province de la province de Tchopo est venu nous solliciter pour céder notre terrain là où il y avait nos activités. On avait accepté, on avait demandé au gouverneur, avant de nous déloger ici, il faut un état de lieu, et puis il faut nous donner un préavis, et puis nous montrer le nouveau terrain. Mais chose qui n'était pas faite, à un moment donné, à grande surprise, le gouverneur de province a envoyé 150 militaires, il nous a déterpillé dans notre site et pillé tous nos biens. Maintenant, ça fait une année qu'on réclame ça jusqu'à présent, on n'a rien trouvé. Alors, les démobilisés maintenant vivent en dépendance, après avoir perdu tous nos kits, appuyés par l'UMPDDR et qui nous aidaient à vivre, à payer les logements, donc pour toutes nos vies sociales.
C'était là Michel Ondikane, porte-parole et président des démobilisés de la province de la Tchopo. Norbert Kassindi, je rappelle que vous êtes responsable provincial de l'unité d'exécution du programme national DDR, PNDDR Nord Kivu. Quelle lecture ou comment vous analysez cette situation des démobilisés qui menacent de retourner dans les groupes armés parce que le gouvernement n'honore pas ses promesses vis-à-vis d'eux?
Bonsoir à tous mes co-débatteurs. Le programme national DDR est un programme qui, effectivement, a été mis en branle depuis 2004. Et après plusieurs phases, nous sommes à la phase où nous avons le DDR 3. Nous l'appelons DDR 3 tout simplement puisque c'est la troisième étape de notre programme. Et le programme, à chaque fois qu'il est exécuté, il est fait toujours avec l'appui des bailleurs des fonds extérieurs, multibailleurs ou pas. Et tout le monde le sait, ce programme DDR 3 a été mis en chantier après la déconfiture du M23 et il est exécuté non seulement pour eux mais pour tous les autres. Et donc dans le pays nous avons actuellement des ex-combattants démobilisés sortis du centre de préparation à la réintégration de Kamina et Kitona qu'on retrouve aussi bien à Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu et dans les Katanga. Et en petit nombre, on les retrouve également à l'Équateur. Aujourd'hui, si ceux de Rutshuru menacent de retourner à Brousse, nous croyons que le problème est ailleurs. Tout simplement puisque pendant leur séjour dans les CPR, ceux de cette phase ont eu l'avantage énorme puisque le gouvernement a investi des moyens conséquents pour qu'ils soient formés. Et tous ceux qui me suivent savent que quand on investit dans la formation d'un enfant, on souscrit à, je ne sais pas si je peux dire Maxime, qui dit, au lieu de me donner les poissons, il faut m'apprendre à pêcher. Comme pour dire qu'à ceux-ci, on a donné des formations qualifiantes, après des formations civiques, qui peuvent leur permettre, avec l'appui qu'ils reçoivent en titre de réinsertion, de faire éclore les potentialités qu'ils possèdent.
Mais le problème qui se pose, c'est qu'on refuse de leur donner du travail parce qu'ils sont considérés toujours comme maï-maï.
C'est pourquoi on a, avant de donner les formations qualifiantes, donné les formations citoyennes. C'est-à-dire, on leur apprend comment il faut se comporter dans la société. Soit dit en passant, si dans un village, vous êtes pointé être du groupe de ceux qui, à tout bout de champ, revendiquent par des voies qui ne sont pas normales, il ne faut pas vous étonner qu'on vous stigmatise. Nous en appelons justement, à cette occasion, à la communauté qui les reçoit, qu'elle accepte que c'est un prix à payer et que c'est, puisque le gouvernement a déjà donné son pardon, ces jeunes gens ou ces grands, les grands jeunes ayant tourné le couteau vers leur géniteur. Le géniteur a dit, je vous donne mon pardon. Et après mon pardon, moi je vais vous accompagner. C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc,
mais apparemment,
c'est le gouvernement doit emboîter le pas pour dire, maintenant, nous accueillons nos enfants, ce sont les nôtres, nous n'avons pas à les stigmatiser. Et ça, il n'y a pas que le gouvernement qui doit dire à la société, ne faites pas ça. La société doit comprendre que c'est un prix à payer et que donc on doit passer par là.
Alors Norbert Kassindi, il y a d'autres qui indiquent qu'ils ont voulu s'enrôler dans l'armée régulière à partir de Kamina et Kitona, mais ils ont été forcés de retourner à Rutshuru avec ferme promesse d'être assistés sur place par le gouvernement. Mais jusque-là, il n'y a aucune action en leur faveur. Ils sont abandonnés.
Oui, c'est très facile de dire abandonner. Nous, on peut toujours poser la même question. La population qui a subi les affres de la guerre, les affres des conflits, quel appui cette population a-t-elle reçu? Et comme je le disais, s'ils ne veulent pas accepter que la formation qu'ils ont reçue est une formation qui peut leur permettre de faire éclore les talents, les potentialités, de devenir des citoyens, qui peuvent s'installer, puisque la population avec laquelle ils vont vivre n'a pas reçu ça, et qu'ils ont déjà eu plus. N'est-ce pas déjà la bonne foi du gouvernement? Qu'ils disent qu'ils ont été forcés à devenir ex-combattants démobilisés, eh bien, moi, à ce niveau-là, je me dis toujours ils ont, pour certains, passé 3 ans, et qu'ils me disent qu'il n'y a pas une frange d'entre eux qui sont revenus à l'armée.
Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quel genre de formation qu'ils reçoivent?
Nous avons été forcés quand le choix effectué par vous-même n'a pas été un choix judicieux.
Norbert Kassindi, c'est quel genre de formation que ces démobilisés reçoivent?
Nous avons dans les centres de formation, dans le centre de préparation à la réintégration, pour tous ces ex-combattants démobilisés et à Kitona et à Kamina, après les formations citoyennes qui ont duré entre 2 et 3 mois, c'est-à-dire l'apprentissage des droits humains, le respect de l'environnement et qu'est-ce que j'ai encore, ils ont eu pour certains les formations à l'agripel, c'est-à-dire agriculture, pêche et élevage, qui a été assurée par la FAO. Nous avons ceux qui ont suivi les métiers, formation assurée par l'INPP, qui est en train de faire de ses preuves partout à RDC, dont les métiers comme l'ajustage soudure, la coiffure, l'électricité bâtiment, l'informatique, merci, la maçonnerie, la mécanique auto, la menuiserie. Et pour ceux qui ont suivi les AGR, formation assurée par la Caritas, nous avons la coiffure esthétique, la boulangerie, la coupe.
Merci, monsieur Norbert Kassindi.
Ce sont des formations qui ont été assurées.
Merci, monsieur Kassindi. On vous redonne la parole tout à l'heure. Mohamed Boulet, député national, membre de la commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes ancien vice-ministre de la défense et général à la retraite. Général Boulet, quelle est votre lecture de la situation qui se vit ou la situation des démobilisés?
Merci beaucoup. Je voudrais saluer en passant M. Norbert Kassindi, ainsi que Didier Bitaki, qui participe à l'émission. Je voudrais pour ma part m'interroger, après que nous ayons connu successivement DDR 1, 2, 3 aujourd'hui, depuis 2004 à ces jours, certainement, pendant cette phase, les ex-combattants ont eu à faire un choix entre rester à l'armée et quitter l'armée, donc pour être démobilisés. Mais de tous ceux qui sont démobilisés de manière irrégulière et volontaire, je crois, province par province, c'est parce qu'il y a des unités d'exécution du programme national DDR par province, il faudrait un suivi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que même dans le cadre des attributions du ministère de la Défense nationale, normalement, tous ceux qui sont démobilisés ou qui ont suivi ces programmes doivent être suivis pour leur vie normale dans la situation civile. Et qu'il faut les suivre, certainement. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, que par province, qu'il y ait des directeurs provinciaux chargés de ces suivis-là. Qu'en est-il exactement? Parce qu'il s'agit ici du Nord Kivu, de la province de l'Otchopo. Toutes ces provinces-là se trouvent dans la zone de défense, dans une même zone de défense, la troisième zone de défense. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les suivre. Parce que d'autres disent que nous avons voulu nous enrôler à l'armée tout en oubliant que lorsqu'il y a une loi qui fixe les conditions de recrutement, si on ne remplit pas ces conditions-là, et donc en ce qui concerne l'âge, par exemple, des 18 à 25 ans, et que si on n'est pas apte et que si on n'est pas passé par une commission ad hoc, alors en ce moment-là, on ne peut pas avoir l'accès parce que nous voulons quand même la montée en puissance d'une armée que nous supposons être professionnelle dans les années à venir, et les efforts doivent être inlassablement déployés dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'on connaît la démobilisation? Je dirais non. Après l'indépendance, on a eu des problèmes, des rébellions, et même avant cela, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu à démobiliser ceux des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Il n'y a aucun de ces anciens combattants en vie, sauf une centaine aujourd'hui de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils étaient suivis de là où ils étaient, parce qu'ils étaient retournés dans leurs milliers et ils étaient pris en charge
le gouvernement.
Par le gouvernement, par la communauté, ils se sont intégrés pour faire le travail qu'ils pouvaient le faire. D'autres se sont engagés, certainement. Mais pour ceux qui ont reçu des formations selon les filières, nous avons suivi à Kamina et à Kitona. Mais le problème au niveau des provinces, aussi parce que nous avons suivi, je me rappelle des images lorsqu'ils sont rentrés dans le Nord Kivu, la quai qui était réservée, il faudrait suivre ces gens parce qu'avec une particularité qui présente toujours un danger potentiel, d'autant plus que dans cette
partie... C'est pourquoi il y a cette réticence de la population de pouvoir engager, se démobiliser.
Mais certainement, ça dépend aussi des coins, parce que même dans ces coins, mais quel serait alors... Que font les barzans communautaires pour accueillir ces gens? Parce que les chefs coutumiers sont là pour ne gérer pas que des bons citoyens. Il y a aussi des enfants difficiles. Lorsque ceux-là sont retournés, il y a quand même les minimums à faire. Ça dépend. Est-ce qu'ils sont retournés dans leur milieu d'origine? Ou bien, une fois arrivés dans le chef-lieu de la province, ils disent, bon, restez là-bas et tout ça. Et je crois, c'est question maintenant d'évaluer au cas par cas. Ceux qui sont donc démobilisés depuis DDR1, DDR2 et aujourd'hui DDR3. Et leurs revendications, pouvoir les examiner s'ils sont fondés ou pas. Sinon, c'est constitué en bande pour dire menacé, ce n'est pas
ça. Est-ce qu'il faut prendre cette menace au sérieux?
Mais il faut la prendre au sérieux parce que quelqu'un qui déjà sait manipuler une arme, lorsque dans cette partie du territoire il y a toujours des cas de tuerie et tout ça, et il pense se trouver mieux dans des foyers miniers, en groupe et tout ça, en train de maltraiter les populations, là ça pose problème. Il faut prendre ça très au sérieux.
Merci Mohamed Deboulé, Didier Bitaki, expert en désarmement et en droit international humanitaire. Didier Bitaki, comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup Madame Kelly. Je salue d'abord le doyen Mohamed Boulé, que j'appelle affectueusement doyen. Et Norbert Kassini également, qui est à Goma pour le même service. Et à vous également, Madame Kelly, bonne année à vous tous.
Merci.
Pour la question que vous posez, pour moi, je pense qu'il faut d'abord regretter. C'est un sentiment de regret que je dois exprimer ces jours. Parce que, comme vous le savez, en 2015, Madame Kelly, nous avons encore une fois débattu de cette question avec l'ancien ministre de la Défense, où le même problème s'est posé à Kotakoli, et à Kitona. C'était juste un mécontentement exprimé par les démobilisés ou les candidats à la démobilisation dans les deux centres qu'il fallait acheminer à Kamina pour suivre les autres étapes de DDRRR. Mais le regret provient du fait que, en fait, il y a une compréhension totale de ce qu'on appelle UEPN-DDRRR. Pourquoi je l'ai dit? L'IEPN DDRRR doit être d'abord compris. C'est l'unité d'exécution du programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinsertion. Alors, si vous prenez ce terme dans son ensemble, l'unité d'exécution, c'est-à-dire cette unité exécute le désarmement. Et c'est là qu'il faut tirer d'abord l'origine même du problème. Le désarmement devrait se faire sur le terrain pour évacuer l'ensemble des combattants dans les zones où ils opèrent, vers un centre où ils doivent alors subir la démobilisation. Et de la démobilisation, au cas où il y aurait des combattants étrangers, ou peut-être qui ne sont même pas de la zone où ils ont été trouvés, on les rapatrie, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est la réintégration dans leur communauté respective. Et après cette réintégration, il y a la réinsertion. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que apparemment, on est en train de faire une confusion entre le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. On oublie les deux étapes du rapatriement et de la réintégration. C'est-à-dire, le directeur provincial de l'UEPN DDRRR devrait nous dire les zones dans lesquelles on veut amener ces ex-combattants des Kamina jusqu'au nord Kivu, par exemple, parce que c'est là où se pose le problème. Est-ce que ces zones sont-elles pacifiées? Est-ce qu'il y a-t-il plus de groupes armés qui y opèrent? Pourquoi ces groupes y opèrent? Quel est le remède pour éviter que les personnes, les gens démobilisés ailleurs, à Kamina, puissent rentrer et reprendre, recommencer une vie civile dans une zone où il n'y a plus de menaces et de mouvements armés? Donc, l'UEPNDDRRR, de ce côté-là, en ce qui concerne le désarmement, devrait carrément déclarer son échec, devrait l'avouer. En deuxième lieu, la démobilisation. La démobilisation, on prend quelqu'un, on l'amène dans un centre où on doit le démobiliser. Démobiliser quelqu'un d'un groupe armé vers la vie civile. En les démobilisant vers la vie civile, on prévoit des mécanismes de suivi et de prise en charge de ce que la personne doit devenir pour éviter qu'il ne se fasse recycler dans le mouvement insurrectionnel. Or, la zone dans laquelle ces opérations se réalisent est une zone où il y a encore plus de groupes armés, plus de combattants que ceux qu'elle était avant, pendant que ces combattants-là devaient quitter la brousse. Donc c'est tout cela le problème.
Et alors, sera difficile de faire le suivi, le suivi de ces démobilisés dans cette zone, disait Bitaki.
Exactement, il est difficile, voire impossible même d'assurer le suivi. Mais aussi, il faut savoir, est-ce qu'il y a eu adaptation du métier appris dans les centres où ils avaient été amenés, à Kamina, à Kitona et ailleurs? Est-ce qu'il y a eu adaptation par rapport au contexte du milieu où ils doivent être rapatriés après la réintégration? Est-ce que ces quittes-là, ou même les métiers qu'ils ont suivis, est adapté au milieu où ils doivent vivre? Voilà, tous ces problèmes devraient être analysés avant même de procéder par le rapatriement de ces derniers. Moi, je suis en train de regretter le fait que, dans un contexte de guerre, dans un contexte de violence, comme le général l'a déclaré d'ailleurs la fois dernière, que il fallait que Makenga et sa suite se rendent, je ne sais comment. Ils sont où? Ils sont dans la même zone. Ces mêmes combattants qui déclarent aujourd'hui qu'ils sont fatigués et doivent se retrouver ou retourner dans la brousse, vivent aussi dans la même zone où ces menaces existent. Je pense que la procédure même n'a pas été suivie. Clairement, il fallait que soit les animateurs de DDR, soit ceux qui les dirigent, ou même ceux qui sont candidats, devraient tout simplement déclarer qu'ils ne connaissent pas le domaine dans lequel ils se retrouvent, pour qu'on cherche des personnalités capables de suivre ces procédures pour aider le pays à aller de l'avant que de retourner chaque jour dans les mêmes problèmes.
Et donc vous estimez que ce programme a échoué?
Le programme a carrément échoué et il faut les restructurer et les réorganiser, clairement. C'est bien cela. On est fatigué de ces problèmes.
Alors Didier Bitek, qui c'est vrai que s'est démobilisé, se plaignent du fait qu'ils sont abandonnés, mais entre-temps on apprend que ces mêmes démobilisés vendent les kits qui les sont remis par le programme UNPNDDR.
Mais ils vendent, madame, ils vendent les kits à qui? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on procède par la réinsertion de quelqu'un, il ne suffit pas seulement de lui donner les kits du métier qu'il a appris, mais il faut lui donner le moyen, parce qu'il y a de substances qu'il doit acheter qui doivent lui permettre d'assurer et de promouvoir, même ou d'exercer le métier qu'il a appris. Mais lorsqu'il n'en a pas, il va survivre comment? Pour avoir les ingrédients, comment il va procéder? C'est pourquoi ils vendent cela. Ce n'est pas de leur faute. La faute incombe à celui qui les a amenés dans ces conditions-là et à celui qui a donné un kit inadapté à leurs conditions de vie. C'est celui-là à qui il fallait poser la question. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est parce que tout simplement, il y a méconnaissance même du domaine.
Vous pensez que ces revendications sont fondées?
Mais sûrement, ces revendications sont fondées parce que moi-même, j'ai suivi le cours de ces événements depuis que ces démobilisés se trouvaient dans les différents cas à l'Équateur, à Kamina, à Kitona. J'ai été chaque jour avec eux, avec le ministre.
Merci.
Et c'est que nous avons prévu dans la conception même du programme, dans la conception de l'exécution du projet. Ce n'est pas ce qui est fait. Donc, il y a eu incompétence totale de la part de ceux qui gèrent le programme. Et la conséquence est que ces démobilisés risquent d'accroître le nombre de groupes armés pour déstabiliser de nouveau le pays, alors qu'il y a un autre conflit qui existe, qui dépend de la mise en œuvre de l'accord problématique du 23 mars qui vient encore aujourd'hui refaire surface, comme vous le savez. Donc quel est le problème qu'on doit résoudre?
Merci.
Il faut que les gens aident le pays.
Merci Didier Bissaki. Norbert Kassindi, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Wali Kale.
Moi c'est Binois David, je vous appelle depuis Walikale. Nous, démobilisés, regrettons fort de la manière que nous sommes gérés par l'INPNDD. Un démobilisé n'a pas droit à la vie. Réclamons le statut d'un démobilisé en RDC. Demandons la réorganisation de l'INPNDD en impliquant les ex-combattants. Je suis le président des ex-combattants de Walikale. Nous avons été joyeux de l'installation du bureau INPNDD dans notre territoire pour suivi de l'impact de la réinsertion depuis 2004 qui tourne en zéro. De notre part, nous demandons au bailleur, la Banque mondiale, de stopper ces dons qui ne parviennent pas à arriver chez les bénéficiaires.
Alors, Norbert Kassindi, vous avez suivi ces démobilisés qui nous appellent depuis Wali Kale. Il estime qu'il faudrait réorganiser votre structure en impliquant les ex-combattants. Didier Bitek, il a aussi l'a dit, il faut une restructuration. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, madame Kelly, je suis d'abord tout content que les combattants démobilisés qui parlent de Wali Kale ne suivent ni rien. C'est-à-dire, non seulement il comprend que l'installation du bureau de l'UEPNDD à Wali Kale va leur permettre un suivi et un accompagnement correct, mais il croit que c'est facile pour eux qu'on les mette autour d'une table et qu'avec eux, le programme soit fait. Le programme, c'est un programme national, comme j'ai dit, c'est un programme du gouvernement. Je ne pense pas que nous soyons dans un forum, une assemblée où on doit décider qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'eux, ils connaissent...
La deuxième chose, madame, ces gens ont, comme je l'ai dit, ils ont subi une formation dans laquelle on a investi des fonds. Nous avons, nous-mêmes, nos parents, nous savons ce que ça coûte la formation des enfants. Qui après leur formation dans les cycles, quel qu'il soit, surtout si nous prenons le cadre technique, un enfant qui a fini la section technique coupe et couture, à la fin, sur le diplôme qu'il obtient, nous n'avons pas encore vu une école où on lui donne une machine, une sujetteuse, on lui donne une presse à boutons. Donc ces gens, eux, ont eu cette chance, ils ont eu des formations, où après la formation, on leur donne équipe. La deuxième chose, l'appui que donne les bailleurs de fonds, puisque lui voudrait que les bailleurs de fonds n'amènent plus d'appui. Ça, c'est son avis.
Parce que les bénéficiaires n'en profitent pas.
Un appui n'est pas synonyme de dotation, madame Kelly. Ça signifie quoi? On vous donne un appui, et cet appui va vous permettre, avec ce que vous avez reçu, d'exploiter et d'arriver à vous sortir de la du stade de vulnérabilité où vous êtes. Donc, M. Bita qui dit que le programme a échoué, je dis toujours que la manière de coter même à l'université, elle est d'abord propre à chaque professeur. Donc, M. Bita qui lui croit que le programme a échoué depuis lors, et qu'il est le seul à être capable de pouvoir le mener à bon port, ça c'est son jugement. Les jeunes gens que nous accueillons, les grands jeunes que nous accueillons, nous savons, quand ils disent, comme l'a dit Boulet, ils disent qu'il fallait qu'ils entrent dans l'armée. Actuellement, on est en train de faire le recrutement, mais le critère, il faut avoir un diplôme d'État. Mais combien d'entre eux, nous avons les statistiques, combien d'entre eux ont même un certificat d'école primaire? Alors, quand quelqu'un ne sait pas exactement ce qu'il a à faire dans la vie. Il n'a pas un objectif. Ne demandez pas à quelqu'un d'autre de faire pour lui la feuille de route de sa vie. Et c'est ce que Didier Bitati croit qu'il sera capable de faire pour ces jeunes gens si on lui donne la justice du programme.
Alors les intervenants estimaient aussi qu'on a l'impression, qu'il y a un manque.
Le programme par les bailleurs des fonds a des procédures que Didier Bitati connaît. Quand on dit le marché est passé et qu'on doit donner un kit à celui de Gemena, de Litour ou de Fizi, et que celui de Litour lui dit que le kit n'est pas correct, il y a à boire et à manger, mes chers amis.
Norbert Cassine dit, en suivant les interventions des uns des autres, on a l'impression que vous n'avez pas mis en place un mécanisme de suivi pour se démobiliser.
C'est maintenant que nous sommes en train de distribuer les kits avec les partenaires. Le programme national travaille toujours avec des partenaires. Et ces partenaires sont pour la réintégration, suivi et accompagnement, qui ont même assuré la formation, je l'ai dit au début, il y a Caritas Congo, il y a l'INP et il y a FAO. Et maintenant, après la distribution des kits, quel appui et quel accompagnement va suivre l'accompagnement technique? Ça veut dire quoi? Caritas va arriver chez eux pour finir. Il dit, c'est vrai que tu t'es installé ici, mais on trouve que le marché n'est pas là. Caritas va donner des orientations nouvelles. FAO va dire, c'est vrai que tu es suivi telle filière pour l'agriculture, mais nous espérons, nous trouvons que pour telle spéculation agricole, ce n'est pas le moment où ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et ça, ce n'est pas l'UEPNDDR qui accompagne, c'est vrai que l'UEPNDDR est responsable de tout ça, mais nous avons des partenaires qui font l'accompagnement.
Est-ce que vous prenez cette menace au sérieux, monsieur Cassini?
Il n'y a pas un mécanisme de suivi, c'est comme s'il n'y a pas eu de contrat signé avec des partenaires pour le suivi, justement.
Est-ce que vous prenez cette menace au sérieux?
Nous la prenons au sérieux, tout simplement puisque nous savons que, comme l'a dit Boulay, nous sommes dans une zone où l'effervescence, où le bruit des bottes, etc., sont encore perceptibles. Mais nous croyons et nous disons ceci. Quand quelqu'un a déjà cultivé en lui le sentiment d'être victime de quelque chose et que ce sentiment l'amène à un instinct de, nous allons dire, un instinct délicat, mais il est seul responsable de cet instinct. Et quels que soient les conseils que vous pouvez lui donner, eh bien, il ira. C'est comme la Bible. La Bible est là. Mais ce que nous pouvons dire, qu'il n'y a pas de pécheur. Le pécheur existe.
Merci, Norbert Cassini.
Les pasteurs, les prêtres sont en train de prêcher.
Merci, monsieur Cassini. On vous a compris. Mohamed Boulay, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
François Moulila de Lumbashi. L'État congolais veut une chose et son contraire. De l'autre côté, il appelle à la reddition des jeunes dans les groupes armés et de l'autre côté, il maltraite ceux qui se sont déjà donnés à la reddition. Mais ne perdons pas de vue car nous avons un État réactionniste. Qu'en faire cas de mobiliser des Kitona et des Kamina, dont la maltraitance est à son comble. Le mal est bien, nous avons un État qui ne respecte ni la loi, beaucoup moins sa parole donnée. En fait, il peut s'agir de leur stratégie pour maintenir le pays instable, pour s'en servir d'une manière ou d'une autre.
Mohamed Boulay.
Mais j'aurais aimé que monsieur parle un peu de manière précise de cette maltraitance par l'État congolais, parce que c'est aussi des faits extrêmement graves et qu'il fustige. Je crois que il y a des conditions. Lorsque on a admis d'adhérer dans un processus de DDR et que volontiers on a dit je prends congé, je voudrais être démobilisé et suivre l'autre étape comme l'a si bien dit monsieur Didier Bitati. Mais c'est là le problème de ce processus-là. J'ai dit tout à l'heure que dans cette partie, que ce soit Lubumbashi où se trouvent certainement certains éléments qui étaient démobilisés et qu'il faut réinsérer, mais aussi, ce n'est pas tout le monde qui doit penser que le seul objectif est pour un jeune homme qui soit ex-combattant, c'est de rester et de mourir dans l'armée. Lorsqu'il y a des structures on veut réorganiser l'armée, on veut moderniser l'armée. Il y a quand même des normes. Ce n'est pas ici l'occasion de venir dire, en ces moments, quel est le pourcentage, lorsqu'on fait le pourcentage en termes d'éducation scolaire avant de venir à l'armée, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi on a fait des lois pour circonscrire les cadres, même en ce qui concerne le recrutement, la carrière normale, que ce soit le métier des rangs des sous-officiers et des officiers, et jusqu'après la carrière aussi. Et alors, pour ce type de citoyens qui, en acceptant de rentrer à la maison, et lorsqu'ils ne se soumettaient pas à ces procédures de réinsertion, mais maintenant, il y a des répondants par province. Ces répondants par province, et c'est à ces répondants qu'il faut aller poser le problème de manière régulière. Celui de Walikale, il est le chef de ce groupe. Je crois que je n'ai pas entendu dire nos revendications, nos cahiers de charges là où nous sommes, nous les avons présentés à tel directeur provincial, telle date, pour qu'il se soit saisi de cette question et envoyé à qui de droit. Mais c'est simple de dire la maltraitance, mais aussi la maltraitance, il n'y a pas que cela, hein, il n'y a pas que les démobilisés. On voit aussi les parents qui ont démissionné de leur responsabilité. On voit à travers les villes, pays de Kouloun, tout ça, on se dit, mais d'où viennent ces enfants? Et pourtant, ils ont aussi des parents. Voilà le type de maltraitance aussi qu'il faut se résoudre.
Alors, il y a la situation aussi de la province de la Tchopo où des démobilisants ont été déguerpis de leur terrain. Le gouverneur, selon le porte-parole des démobilisés de la province de la Tchopo, a promis de donner un terrain à ces démobilisés. Ça fait une année qu'ils sont en train de errer comme ça dans la province, sans savoir où aller.
Mais je crois que si on les a mis dans la ville, une ville quand même doit répondre à certains critères d'aménagement et de pouvoir créer des sites pour peut-être créer aussi des lotissements. Mais si on a regroupé, je crois qu'au niveau du gouverneur de province, il ne peut pas avoir fait ça sans qu'il y ait eu une réunion dans le cadre du comité de sécurité locale à laquelle seraient associés les directeurs provinciaux qui s'occupent de ces domaines pour prendre de telles mesures. Mais si tel n'a pas été le cas, il y a des erreurs. Il faudrait, je crois que le gouverneur, me semble, peut suivre cette émission à ce moment-ci, que créer de telles situations et avoir des gens dans la rue qui déclarent qu'on a pillé leurs petits biens, c'est une préoccupation pour la ville de Kisangani et la province de la Tchopo tout entière. Et comme partout ailleurs, il faudrait que les responsables au niveau des provinces puissent s'occuper. Nous savons que le domaine de défense, c'est un domaine de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Au niveau de provinces, les gouverneurs ont plusieurs casquettes, donc ces problèmes de sécurité doivent les préoccuper.
Merci, Mohamed Boulay. Didier Bitaki, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kolwezi, dans la nouvelle province de Lualaba.
Adonis Kamengwa de Kolwezi. Si nous retournons un peu dans le passé, nous découvrons que ces ex-démobilisés ne se sont pas bien comportés à l'égard de la nation congolaise. Aujourd'hui, leur état de citoyens libres, jouissant pleinement de tous droits et devoirs, est une grande faveur que le gouvernement leur a offerte, alors qu'ils ne profitent pas de la déstabilité politique nationale pour réclamer leurs droits. S'ils ont à revendiquer, qu'ils le fassent selon les procédures légales, pas en menaçant la nation. S'il vous plaît, qu'ils n'ajoutent pas un cœur de mort à l'Est, au Nord Kivu, parce que ces pauvres innocents en ont assez. Il y a un temps pour toute chose, le temps de revendiquer et le temps de soutenir patriotiquement son action. Moi, je pense que la RDC passe de moments historiques cruciaux, ne l'embrouillez pas. Qu'ils attendent, leur promesse sera tenue après que la RDC ait retrouvé son calme et sa stabilité plus ou moins générale.
Didier Bitaki.
J'aimerais bien, je n'ai pas de réponse spécifique à donner à l'intervenant de tout à l'heure, mais je le remercie quand même d'évoquer cette observation. Mais j'aimerais bien recadrer les choses. Je pense que quand on parle du désarmement, il ne faut pas oublier cela, on se borne toujours sur la démobilisation. La démobilisation elle-même pose problème parce qu'on ne comprend pas son origine. Le désarmement en soi de ces combattants, est-ce qu'il s'est opéré tel qu'il faut, selon les normes établies avant d'y arriver? Parce que le problème qui se pose ici, c'est de ne pas comprendre tout de suite que le problème de désarmement consiste à créer des attractions, des motivations à l'égard de la personne qui souscrit à ce désarmement-là. Alors la suite de sa vie est prise en charge par l'autorité qui prend en charge, disons, qui a initié le projet. Alors, c'est-à-dire quoi? Ces gens qui sont rapatriés vers le Nord Kivu, vers l'Ituri, vers d'autres provinces ailleurs, sont des personnes qui, d'abord, ont participé à des mouvements armés. Ce sont des personnes ayant un statut spécifique par rapport à leurs conditions sociales d'un citoyen normal. Alors, il y a des questions, il y a des attitudes à prendre vis-à-vis d'elles. Vous vous rappelez bien, madame, qu'ils se sont encore une fois révoltés dans les cas de Kamina, où il y a eu mort d'homme, vous vous rappelez bien. Ensuite, à part ça, ils sont partis au Nord Kivu. Arrivés au Nord Kivu, aujourd'hui, ils menacent qu'ils préfèrent retourner dans les rangs des groupes armés. Moi, j'ai
alors,
posé la question.
Comme cet auditeur vient de dire, s'il y a des revendications, il y a même le général Boulay qui l'a dit, s'il y a des revendications, pourquoi ne pas suivre la procédure normale, voir les personnes qui s'occupent d'eux au lieu de menacer vont retourner en brousse dans les groupes armés?
Moi-même, je ne les encourage pas de retourner en brousse, mais le fait qu'ils aient annoncé qu'en tout cas, ils sont fatigués et qu'ils souhaiteraient en tout cas retourner dans la brousse et que de rester dans les conditions où ils vivent. C'est juste une alerte, c'est pour dire qu'ils voudraient à ce que l'autorité compétente accorde une attention particulière à leur cri d'alarme. C'est ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils ne sont pas encore retournés dans la brousse. En alertant comme ça, j'aimerais bien entendre du directeur provincial de DDR que voici les mesures que nous prenons tout de suite, juste pour mettre fin à ce genre de revendications, parce que même si vous suivez celui qui a parlé de Walikale, il vous dit beaucoup de choses, et c'est interpellant. Lorsque ça vous interpelle, vous devriez dire à ce stade de problème, nous cherchons des solutions et voici ce que nous proposons sur la table. Et non de retourner dans la formation. La formation, il y en a eu. Mais en formant les gens, est-ce que là où on les a envoyés, on a prévu des moyens de suivi, des moyens de suivi? Quelle est l'équipe qui suit ces gens? On parle de 300 personnes qui se retrouvent dans le territoire des Rutshuru. Ce sont eux qui revendiquent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il un suivi vis-à-vis de ces gens pour savoir comment ils vivent? Est-ce qu'ils sont dans les conditions où on a voulu qu'ils soient?
Didier Bitaki, Norbert Kassindi, il y a une situation qui se pose. Quelle est la solution pour calmer ces démobilisés?
Je l'ai dit tout au début, le programme, c'est le programme national qui est fait pour la nation congolaise. Il y a, moi, à mon sens, la notion du travail qui doit d'abord être, je pense, impliqué de nouveau à beaucoup de grands jeunes dans cette partie du Congo où les gens croient qu'à un matin tu te réveilles, tu sèmes et le soir tu es capable de récolter. Nous ne devons pas nous valer leur face. Je l'ai dit, on a réuni les ex-combattants démobilisés dans toute la province que j'ai citée, etc. Nous n'avons pas encore attendu pareil comportement. Et ils doivent être patients, ils doivent s'armer du courage, c'est-à-dire éviter vaincre le sentiment de défaitiste, qui sait qu'on ne commence rien. Ils ont l'équipe de réinsertion. Il y en a qui sont arrivés depuis le mois de juin. Je parie que si parmi eux, tous ne peuvent pas dire qu'ils sont encore autant vulnérables que quand ils sont arrivés, tout simplement puisque ils ont appris à jeter un coup d'œil vers les membres des communautés d'accueil, ce qu'ils font et qui n'ont jamais rien reçu. Et si quelqu'un a fait seulement ce geste-là, eh bien, il a appris que, en attendant le kit, voici ce que je préfère. Et même si le kit, comme ils sont en train de le dire, n'est pas celui que j'attendais, encore que lors de la formation, ils avaient
rapidement
à recevoir. Donc, nous disons qu'ils essayent de fermer de beaucoup de courage et qu'ils ne pensent pas que les revendications doivent passer nécessairement par des formules qui sont inappropriées.
Merci, Norbert Kassindi. Mohamed Boulay, votre conclusion. Il faut une solution.
La conclusion, l'alerte est donnée. Il faudrait qu'au niveau du haut commandement militaire, qu'on prenne les choses au sérieux et surtout que par région, dans ces zones de défense, que chacun des commandants des zones de défense avec ses commandants des grandes unités prennent à cœur cette situation pour évaluer ce type de menace avec les responsables provinciaux chargés des DDR et porter l'affaire en discussion au niveau du haut commandement pour que les hauts commandements puissent également les porter à la, donc, à la structure politique, c'est-à-dire les conseils supérieurs de la défense, et pour trouver une solution idoine.
Didier Bitaki, votre conclusion.
Tout simplement, je donne un conseil à tous les intervenants et les concernés en général, que l'autorité compétente devrait procéder à la restructuration de l'IFNDDR, mais aussi aux ex-combattants bénéficiaires, de garder leur calme, que l'espoir n'est pas perdu et qu'il est encore possible de leur trouver des solutions dans la patience et dans la tranquillité.
Merci Didier Bitaki, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.